dans la mesure où je vais surtout parler de généralité et de la désintégration des Comores par la politique française à Mayotte, orchestrée par une campagne de déstabilisation, de désinformation de l'histoire des Comores. Donc je vais parler du sujet sous l'angle de la désinformation et de la falsification de l'histoire des Comores. Ce qui m'a orienté dans ce sens, c'est que, comme tout le monde l'a vu, ces derniers temps, on a vu que dans les médias, surtout dans cette affaire de Barouin que va développer le président de SOS Démocratie tout à l'heure, nous avons vu que tout le monde s'est contenté de condamner les propos du ministre français en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est que les Comores, la France est en inégalité sous le territoire maoré. Et cela a été certifié par les instances, par les résolutions des instances internationales et par la communauté internationale. Et nous, on est tombé dans le piège qui nous a été tendu par la France, qui consiste à nous faire dire que même nous qui étions contre les propos du ministre français, nous n'avons pas daigné souligner que, en fait, le problème, c'est pas qu'il y ait une loi anachronique à Mayotte. Le problème, c'est que la France n'a pas à rester sur le territoire maoré dans la mesure où toutes les résolutions des instances internationales lui ordonnent de rendre Mayotte et que Mayotte intègre son ensemble naturel. Donc ça, c'est une campagne de désinformation qui a été rondement menée par les autorités françaises et qui nous font oublier que finalement, les immigrés clandestins, ce ne sont pas les Comoriens des autres îles qui sont à Mayotte, mais c'est bien la France, les Français qui sont des immigrés clandestins à Mayotte. Donc c'était cela qu'il fallait souligner, parce que même les associations des droits de l'homme, même les journaux de la gauche, même Souvi, d'accord, ils ont condamné les propos de Barouin, mais ils ne sont pas revenus sur l'origine même de ce qui a provoqué cet acte condamnable de Barouin, à savoir l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte par la France. Ça, c'est un premier point que je tenais à mettre en exergue. Et puis, nous en venons à la présentation des îles. 4 îles disséminées dans le canal de Mozambique, entre Madagascar, le nord de Madagascar et le continent africain au niveau du Mozambique et de la Tanzanie. 4 îles situées à 8000 km de la France. Et ces 4 îles sont la Grande Comore, officiellement appelée Ngazija, Mwali, Mweli, Anjouan, Zouane et Maore, Mayotte. Alors, ces 4 îles que j'ai cités ont plus de connexité entre elles qu'il y en a entre, par exemple, l'Alsace et la Corse, ou bien entre la Bretagne et l'Alsace, parce que ces îles ont en partage la même langue, quoi qu'en disait en 1974, au moment où il y a eu cette campagne justement de désinformation des tenants de Mayotte, la française, notamment, je citerai Michel Debré, qui était en ce temps-là député à La Réunion, Mesmer, un ancien premier ministre français. Alors, tous deux ont orchestré une sorte de lobby, notamment au Sénat français, au Parlement français, et plus particulièrement au Sénat. Ils ont fait signer une pétition, ils ont fait circuler une pétition à cette époque, justement, pour essayer d'enfoncer un coin sur le gouvernement Chirac sous Giscard d'Estaing. Alors il faudra nous arrêter un petit moment parce que ce point-là est crucial. C'est que l'intégrité et la souveraineté des Comores a été sacrifiée en ce temps-là sur l'autel des convulsions politiques de la droite française. C'est-à-dire à cette époque, on s'en souvient, il y avait les élections présidentielles, et c'était au moment où le parti de Chirac UDF. C'est au moment où le parti de Chirac UDF se structurait. Et à cette époque-là, quand de Giscard UDF se structurait, excusez-moi, et quand Giscard fut élu, on se souvient qu'il avait pris comme premier ministre Chirac. Chirac qui était, à cette époque, ça s'appelait UDR, je crois. UDR, c'est ça, hein? Oui, ça s'appelait UDR. Et Chirac était qualifié de traître par ses camarades de l'UDR du fait qu'il avait appelé à voter Giscard d'Estaing. Il avait appelé à voter Giscard d'Estaing. Donc, à cette époque, l'UDR était divisé entre Chiraciens qui ont appelé à voter Giscard. Entre Chiraciens, oui, qui ont appelé à voter Giscard, et puis l'autre candidat à ces élections-là, c'était Chaban Delmas, et puis les partisans de Chaban Delmas. Et quand le gouvernement de Chirac a été constitué sous Giscard, donc les UDR de Chaban Delmas voulaient donner une leçon à ces deux. C'est-à-dire en même temps à Chirac et à Valéry Giscard d'Estaing. Donc, sous la conduite de Michel Debré, qui à cette époque était député, merci, excusez-moi. Était à cette époque député UDR parachuté à La Réunion, il a rameuté toute la droite française et même l'extrême droite, parce qu'on se souvient que Pujol, qui était le directeur de l'Action française, a élu domicile, lui et son équipe, à cette époque-là, à Mayotte, pour essayer de renforcer ce lobby. Et à l'Assemblée nationale, comme Giscard ne voulait pas envenimer les choses, donc Giscard a dû céder. Et c'est comme ça que, malheureusement, l'avenir de Comores a été sacrifié sur l'autel des convulsions politiques entre membres de la droite française. Donc ça a commencé comme ça. Et la campagne de falsification et de désinformation a commencé à cette époque-là. Déjà, Giraud, qui est actuellement sénateur de Mayotte au Parlement français, avoue qu'à cette époque, il fallait faire tous les moyens pour essayer de se constituer un lobby pour lutter contre les indépendantistes comoriens. Donc il avoue qu'ils avaient mené une campagne de mensonges et de désinformation. Il avait notamment à cette époque osé dire sans que Mayotte était composée de 90% de Malgaches catholiques qui n'avaient rien à voir avec les autres îles. Alors moi, je dis que le tort n'est pas d'un seul côté, parce qu'à cette époque, quand ces gens-là déversaient dans les journaux, à colonne de journaux, tous ces mensonges, toute cette campagne de désinformation, il n'y a pas eu une seule voix, bon, une seule voix comorienne pour dénoncer ces contre-vérités. Mais le plus grave, c'est qu'on s'est rendu compte que 100 ans après l'incursion de la France aux Comores, la France ne savait rien de ces colonies françaises. Parce que cette campagne de désinformation était menée même au niveau du Parlement français. Il y a les textes qui sont là, qui soulignent bien quand les ténors de l'UDR sont montés à la tribune pour dire que Mayotte n'a rien à voir avec les autres îles, que c'était un peuplement malgache composé à 90% de catholiques. Comme si, à cette époque-là, ils disaient aussi que donc Mayotte, comme Mayotte n'a rien à voir avec les autres îles aussi, parce que Mayotte n'a pas été colonisée à la même époque que les autres îles. Comme si une colonisation, ça se faisait d'un trait, à un moment donné, d'un seul coup. Une colonisation, même une indépendance, est acquise au fil des années. Même la Gaule de l'époque n'est pas la France d'aujourd'hui. Il y a eu des ajouts, des retraits. On se souvient de l'Alsace et de la Lorraine. C'était un mouvement de va-et-vient. Donc, eux, ils avaient pris ça comme argument, mais il n'y avait personne dans l'autre camp pour dénoncer ces contre-vérités. Moi, je me souviens, bon, je vais prendre un exemple personnel, qu'en 1974, quand je commençais mes études à l'école de journalisme ici, j'avais monté un petit journal au sein d'une association d'étudiants comoriens, à cette époque qui s'appelait l'ASEC. Quand je suis venu, l'ASEC était fait en deux colonnes, comme ils avaient copié Pékin Information, parce que Pékin Information, à cette époque, il y avait deux colonnes sans photos, il y avait juste des textes. Alors moi, j'ai joué d'écoute au sein de l'association pour leur demander d'essayer de faire un journal avec photos et mise en page et tout, puisque j'avais fait aussi un stage de secrétariat de rédaction dans le cadre de mes études. Donc, j'ai apporté cette contribution à ce journal pour créer ce journal, parce que tout le monde sait que à cette époque, toujours avant l'informatique, à cette époque, ce qui coûtait cher pour sortir un journal, c'était justement cette mise en page et le travail de secrétariat de rédaction. Ça, c'est une petite digression que je fais pour montrer après ce qui va arriver. Bon, quand j'ai fait ça, j'avais proposé un article à cette époque pour dire que, parce qu'à cette époque, il y a les tenants de Mayotte, la française, les tenants les nostalgiques de l'empire colonial de cette époque, qui disaient aux Mahorais, qui avaient lancé un mot d'ordre dans toute l'île de Mayotte, pour leur dire que, bon, si nous voulons vraiment rester, être ancrés dans la France, sans qu'il y ait de revirement, il vaut mieux que nous choisissions le statut de département d'outre-mer, d'homme. Et à cette époque, il y avait la campagne, une campagne qui battait dans toute l'île pour amener les gens à crier département, département, département. Et à cette époque, en 1974, j'avais écrit un article pour demander, pour expliquer aux Maoris ce qu'est un département par rapport aux us et aux coutumes et à la culture mahoraise. Et j'avais fait tout un article qui d'ailleurs n'avait pas été retenu. Mais cet article, je l'ai toujours, pour montrer qu'il suffit de montrer aux Mahorais ce que c'est qu'un département. tant et si bien. Quand, après le vote qu'il y a eu pour que Mayotte, dans 10 ans, puisse accéder au statut d'homme, il y a eu une commission qui s'est tenue à Paris avec des Mahorais, des Cadis, des notables et surtout des juristes français pour essayer de montrer à peu près ce qu'ils allaient proposer dans 10 ans aux Mahorais. Mais quand les juristes ont montré ça aux Cadis et à tous ces gens-là, il y a 2 ans. Quand ils leur ont montré, ils ont dit, mais nous, on n'a jamais demandé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on leur a dit, si vous optez pour le statut de département, vous n'aurez plus les fêtes religieuses, et puis le cadi n'aura plus la fonction qu'il a actuellement. Il y a beaucoup de choses qui seront mises en cause. La polygamie, bon, la polygamie, ça c'est une bonne chose qu'elle soit supprimée. D'ailleurs, même dans les autres îles, la polygamie se pratique de moins en moins. Mais ce qui avait choqué la délégation mahoraise, c'est qu'on ne leur avait pas expliqué que dans le statut de d'homme, ils perdaient certaines de leurs prérogatives qu'ils avaient jusqu'ici. Et il a fallu qu'il planche, que toute cette délégation et les constitutionnalistes, les juristes français planchent pour essayer de trouver un statut qui puisse respecter le statut de Tom, c'est-à-dire un territoire d'outre-mer avec le statut musulman et tout ce qui s'en sort, avec dedans l'appellation département. En attendant, dans 10 ans, ils vont essayer de faire rentrer ça dans la tête des gens, parce que les auteurs, enfin l'élite mahoraise avait dit, nous on aura des problèmes, parce que dans les campagnes, des gens qui ne savent même pas lire ni écrire, moins de 10% de mahorais savent parler le français, on leur a dit de retenir seulement le mot département. Alors si on va leur dire que le département ne nous convient pas, là, ils vont nous assassiner. Ils vont dire, nous voulons le département puisque vous nous avez appris à dire département. Et c'est comme ça qu'on a pu pondre un statut mi-figue, mi-raisin avec dedans le terme département. Et ça s'appelle collectivité départementale de Mayotte. Donc ils disent aux gens, nous avons toujours notre département. Bon, ils ont profité aussi du fait que dans les autres départements, notamment en Guadeloupe et à la Martinique, en ce moment, ils avaient demandé à ce qu'il y ait un statut adapté à la réalité de leur île. Et là, la France en a profité aussi pour essayer de se glisser là-dedans et de proposer aux Mahorais un statut plus ou moins conforme à l'appellation de département. Donc c'est pour montrer que la campagne de désinformation qui a été menée même déjà à cette époque, depuis 30 ans déjà, et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, quand même c'est une campagne de désinformation qui montre que la France n'a pas... Excusez-moi. Que la France n'a pas du tout joué son rôle de puissance coloniale dans beaucoup de domaines à Mayotte. Et là, c'est toujours dans cet ordre d'idées. Il y a beaucoup d'écrivains européens, beaucoup de chercheurs notamment, beaucoup de chercheurs qui écrivent sur Mayotte. Alors moi, je m'amuse chaque fois, vous pouvez essayer vous-même, de trouver le mot Comore dans tous ces écrits-là. Ils font blackout sur tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin à Comore. Et ils ont beaucoup de mal parce que ils sont obligés de faire de la désinformation ou tout au moins mentir par omission. Quand ils disent par exemple le Banga, ils en ont sorti des bouquins dessus. Le Banga, c'est la petite maison dans la cour là pour qui héberge le garçon, l'aîné. L'aîné, quand il est en âge de pouvoir sortir avec une fille pour ne pas amener la fille à la maison, donc les parents lui construisent une petite maison dans la cour pour qu'il puisse être à l'aise chez lui, tout en étant dans la maison. Il va manger à la maison, il fait tout à la maison, mais quand il dort dans son banga. Ça s'appelle banga. Alors, cette histoire de banga, on en a même fait construire un au palais de Luxembourg, et les gens venaient visiter, ils disaient, ouais, voilà une spécialité mahoraise. On en a écrit des bouquins, des bouquins, des bouquins. Le banga, ce n'est rien d'autre que ce qui existe en Gazidja et qui s'appelle Vala, avec exactement les mêmes fonctions. Et eux, ils ont fait un battage là-dessus en disant que c'est une originalité mahoraise. Mais il y a 2 ans, je crois, je ne sais pas, je me trompe peut-être de date, Survie avait organisé un contre-sommet. Oui, oui, il y avait un contre-sommet. Donc il y avait un travail qui consiste. Je me demande si c'était dans le cadre de Survie. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, il y avait une exposition et une projection de diapos sur Mayotte. Et c'était toujours la même chose. Ils ont tout fait pour montrer que ça, c'est une spécialité mahoraise. Ça ne se fait qu'à Mayotte. Alors que nous avons la même religion, la même culture, les mêmes us et coutumes. Et nous nous comprenons d'une île à une autre. Chose que, par exemple, les langues vernaculaires qui sont parlées en Alsace, ou encore, ont des différences qui ne peuvent pas permettre la compréhension. Chez nous, d'une île à une autre, on parle la même langue, on se comprend. Il y a juste des petites nuances que moi, je comparais ça à la nuance du parler de Paris et du parler de Marseille. Mais à part ça, c'est exactement la même chose. Et ils essaient de dire qu'il y a la langue mahoraise. La langue mahoraise n'est rien d'autre qu'une langue comorienne qui est parlée par tout le monde et que tout le monde comprend. Alors moi, je suis intervenu à cette manifestation-là, une manifestation qui voulait montrer tout ce qui se faisait à Mayotte. Et là, c'était des chercheurs, des historiens et... vraiment des gens qui avaient fait beaucoup de travail sur Mayotte et qui disaient ces choses-là. Moi, je suis intervenu, j'ai dit, moi, j'approuve tout ce que vous dites, là, seulement c'est dommage parce que vous vous contentez de dire que c'est une spécialité mahoraise, vous avez pu dire que ça se fait également dans telle île ou dans telle île. Qu'est-ce que ça vous êtes chercheurs, vous n'êtes pas des politiciens. Et ils m'ont répondu devant tout le monde en disant « Oui, oui, mais là, l'exposition est faite sur Mayotte. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire qu'à Mayotte, on fait ceci, on fait cela. » Et pour moi, ils ont menti par omission. Il y a une architecte qui vient de sortir un livre sur les constructions traditionnelles mahoraises pour montrer... comment, et puis là-dedans, elle essaie de montrer en quoi la démarche qui est entreprise actuellement par l'administration française à Mayotte pour proposer des constructions erronées. Et là-dedans, dans ses explications, elle dit que, voilà, la culture mahoraise ne permet pas que l'on puisse, par exemple, faire une maison à la française en oubliant, du reste, les us et coutumes mahorais. Oui. Mais là-dedans, tout ce qu'elle dit là-dedans, c'est, ça se fait exactement dans les autres îles. Et elle dit pour enrichir mon document, pour avoir un élément de comparaison, je suis allé à La Réunion. Vous voyez un peu, peut-être qu'on lui a dit, si vous écrivez sur les Comores, vous ne trouvez pas d'éditeur, ou je ne sais pas moi. Alors, si elle veut un élément de comparaison, autant aller dans les îles voisines, voir ce qui est fait là-bas, et puis comparer. Elle verrait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient semblables. Et moi, c'est ça ce que moi j'appelle campagne de désinformation. Parce que moi, j'estime que là, ils ont menti, ils mentent, les chercheurs, les historiens, tout le monde ment par omission. Et tous les bouquins qui sortent sur Mayotte, ils sont de ce tonneau. Ils font tout. Ça, c'est devenu l'exercice national des écrivains européens sur Mayotte. Parce qu'il faut déplorer aussi qu'il n'y ait pas, il n'y a quasiment pas d'écrivains maorais, il n'y a quasiment pas de gens qui puissent écrire sur des Maorais qui puissent écrire sur leur île. Mais cela n'a rien d'étonnant. Quand on pense que depuis plus de, bon, disons, ils disent que Mayotte est française depuis 1840, soit. Bon, Mayotte est sous administration française depuis 1975, soit. Et entre-temps, l'autre partie, c'est-à-dire la partie indépendante, elle est indépendante depuis cette date-là aussi. Moi, je suis allé en 88 à Mayotte. Bon, j'étais envoyé par RFI, je faisais un reportage sur la culture mahoraise, justement. Bon, et dans mes pèlerinations, je me suis rendu compte que à Mayotte, il n'y avait aucun médecin, en 88, il n'y avait aucun médecin originaire de Mayotte. Alors, voyons, depuis 1975 jusqu'à 88, comment ça se fait qu'il n'y ait aucun médecin originaire de Mayotte? Et quand je suis allé chercher des médecins de la région, j'ai pu trouver un dentiste originaire des Comores. En fait, des Comores. Je parle, mais voilà que je me mets à parler comme eux maintenant. Originaire des trois autres îles. Un dentiste originaire des trois autres îles. Quand je suis allé au TP, ce qu'on appelle là-bas les travaux publics, pour chercher, oui, équipement, comment tu dis? Oui, équipement. Quand je suis allé là-bas pour essayer de trouver un responsable pour parler avec lui, là, j'ai trouvé un Européen. C'était lui qui était le responsable. Et le second, c'était un Maoré. Bon, j'ai fait l'entretien avec l'Européen, et puis j'ai appelé le Maoré à côté, on bavardait. Qu'à un moment, je lui ai dit, mais ça m'étonne parce que ça fait un moment que la France est ici, et comment ça se fait qu'on ne trouve plus de cadres maorais dans des postes de responsabilité? Et il m'a expliqué, il a dit, mais vous irez dans n'importe quel domaine, même dans l'enseignement. Il m'a dit, je vous donne une information. Au rectorat, il y avait un directeur français qui était là. Et puis, entre parenthèses, les étudiants maorais qui sont venus, ça aussi il me l'a expliqué, mais je le savais avant. Les intellectuels, les nouveaux intellectuels maorais que j'ai pu trouver en 88, c'était des originaires de maorais qui étaient élevés en dehors de Mayotte. Parce que qu'est-ce qui se passe à Mayotte? À Mayotte, pendant toute cette période, c'est pour ça qu'on trouvait pas de médecins ni d'ingénieurs en 88. Qu'est-ce qui se passait? C'est que les élèves, dès qu'ils arrivaient en troisième, on interrompait leurs études, on leur proposait une bourse pour venir faire un stage de formation ou aller dans l'armée. Donc, ce qui fait que pratiquement toute l'élite de 88 qu'on a trouvée là, c'était soit des réformés de l'armée, soit, bon, c'est pas une mauvaise chose, il y avait pas mal de plombiers, de. Oui, mais il y avait aucun Maoré à qui on a permis d'aller plus loin que ça. Bon, je reviens à mon ingénieur en second. Alors, il m'a dit, vous irez n'importe où. Tout dernièrement, il y a eu un poste de directeur au rectorat de Mayotte. Et les élus maorais à cette époque ont fait des pieds et des mains pour que la France puisse enfin nommer à des postes de responsabilité des ressortissants de Mayotte, parce que la population commençait à gueuler, ils commençaient à en avoir marre. Ils disaient, mais partout on va, on trouve des Européens, et nos enfants, où est-ce qu'on les met? Et à cette époque-là, il y en avait un qui aurait pu accéder au poste de directeur au rectorat de Mayotte. Et quand il est venu, 2 mois après, on a envoyé un autre Européen pour venir le coiffer. Et les Maorais ont protesté, ils ont dit, non, mais c'est pas normal, pour une fois que nous accédons à un poste, ils ont dit, non, mais vous êtes français, et lui, son diplôme est supérieur au vôtre, donc vous êtes second, et il est au-dessus. Donc c'est comme ça que ça se passait jusque-là. Donc, pour moi, je pense que la campagne de désinformation et de falsification de l'histoire a beaucoup porté préjudice à la population mahoraise, parce qu'elle a contribué à les maintenir dans une sorte de, comment dirais-je, une sorte de ghetto. Ils ne pouvaient en sortir, c'est-à-dire qu'ils étaient là, ils avaient leur poste, et puis ils restaient là, et puis de toute façon, ils n'avaient pas à se plaindre, puisqu'ils gagnaient mieux leur vie que leurs compatriotes de l'autre côté. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on va à Mayotte, quand je suis allé à Mayotte, je ne suis pas resté à Dzaoudzi ou à Mamoudzou. Je suis allé un peu partout à l'arrière-pays, mais là, c'est là où on rencontre la misère. On rencontre vraiment la misère des gens qui vivent misérablement. Et quand est intervenu là récemment la loi quand est intervenu par exemple la loi pour la redistribution des sols, parce que chez nous, que ce soit à Mayotte ou dans les autres îles en brousse, les terrains sont attribués selon un système qui s'appuie sur la tradition orale. C'est-à-dire que, par exemple, je suis un père de famille, je vais en brousse, puis je mets un caillou ici, je dis, bon, ça c'est ton terrain à toi, et puis je distribue comme ça le terrain. Les terrains qui ne sont pas exploités sont distribués comme ça par le premier venu. Et c'est comme ça que ces terrains-là se transmettent de famille en famille depuis des générations. Il y a beaucoup de familles qui ont déjà construit, qui ont habité là et qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas de titre et qui n'ont rien. Le terrain leur appartient. Et ça peut être confirmé par le cadi, parce que le cadi, des fois, le cadi, c'est l'autorité judiciaire locale qui est en train d'être écarté maintenant par les nouvelles lois qui vont être instituées. Bon, des fois, les cadis ont des traces, parce que la tradition orale, c'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Et le cadi, il a toujours des traces, parce que il peut. Chaque fois, quand on fait un acte, ces actes-là, on vient les enregistrer si on veut, chez le Qadi, mais si, sinon, on ne le fait pas. Ce qui fait que là, quand il y a eu les nouvelles lois, notamment les lois sur l'état civil et consorts, bon, on a demandé aux Mahorais, bon voilà, maintenant vous allez être français, donc faudra vous conformer aux règles et aux lois françaises. Par conséquent, ceux qui n'ont pas de titre de terrain, il faut qu'ils déguerpissent. Or, ceux qui avaient le titre de terrain, c'était seulement les lettrés, les gens qui savaient lire et écrire et qui savaient que pour essayer de conserver ce terrain, je vais faire des titres. Mais en brousse, dans les campagnes, ces gens-là, ils n'étaient pas au courant. Ce qui fait, ça avait fait un tollé, ça soulevait un tollé à Mayotte, qu'ils étaient obligés de reporter cette mesure en disant, bon, on vous donne quelques années encore, essayez par un moyen ou par un autre de prouver que ce terrain-là vous appartient. Donc, autant de choses qui montrent que vraiment l'absurdité de la chose, parce que quand la France a réuni des Mahorais et des juristes français pour essayer de brosser le statut futur de Mayotte, mais là-dedans, il n'y avait aucun qui connaissait les us et coutumes et la tradition mahoraise, ou un expert de la tradition orale. Et cette faute-là, on la trouve aussi dans les autres îles. Parce qu'on sait que la constitution comorienne, quand on veut faire une constitution, jusqu'ici il y en a eu cinq constitutions comoriennes. Et à chaque constitution, pour essayer d'échafauder une constitution, on fait venir des juristes français qui ne connaissent rien sous la réalité du pays, ni des us, ni des coutumes. Donc ils essaient de faire ça à l'image de la constitution française. Et quand après il y a des choses qui ne marchent pas, ça c'est quand il y a des choses qui ne marchent pas, ou qui, comme je l'avais annoncé au départ, pour le statut des DOM, ou pour la distribution des terrains, ou pour le casier judiciaire, tout ça s'accumule et on ne s'en rend pas compte. Surtout l'autorité française, j'ai l'impression que l'administration française, elle n'a cure. Tout ce qu'elle veut, l'administration française, c'est essayer de donner un statut, n'importe lequel, aux Mahorais, et puis basta. Bon, là, pour ce qui est de la population comorienne, bon, force est de reconnaître que les Comoriens ont cette chance, contrairement toujours à ce qu'avait dit Giraud en disant que Mayotte n'était pas composée des mêmes tribus que les autres îles. Au Comore, il n'a jamais existé ni tribu, ni groupement ethnique. C'est-à-dire les populations qui se sont succédées dans les îles, ils se sont toujours mélangés en adoptant un statut qui a été mis en place bien avant la colonisation française. C'est un système qui était basé qui était calqué sur le système politique des chefferies bantoues et de la civilisation arabo-islamique. C'est ça qui constitue le socle de ce qu'on pourrait appeler la civilisation comorienne. Donc tous ceux qui se sont succédés aux Comores, que ce soit les Malgaches, les Portugais, les Africains, qui se sont succédé aux Comores, ils se sont tous intégrés, ils se sont tous intégrés en adoptant le système en place. Donc, ce qui fait que les gens se marient entre eux, sans qu'on distingue que celui-là, c'est un arabe. Souvent, quand on est deux Comoriens, je me souviens, quand on était à Montpellier, il y avait des compatriotes qui avaient le teint blanc avec les cheveux lisses, et il y en avait un certain nombre. Moi, par exemple, il y avait des noirs, cheveux crépus et tout. Et quand on disait on était Comoriens, surtout les Africains nous disaient, oui, mais toi, tu es métisse, tu es de quelle origine? Chez nous, il n'y a pas de métisse. Il n'y a pas de système de... On ne dit pas qu'on est métisse, on ne dit pas qu'on est... Les gens se mélangent comme ça. Donc, ce qui fait que les Portugais qui viennent aux Comores, s'ils veulent prendre épouse, il faut qu'ils se convertissent dans la religion musulmane et rentrent dans le cadre de cette civilisation bantou, arabo-islamique. Les Malgaches, notamment les rois malgaches, les Andiantsoul et les Ramanetak, quand ils sont venus, parce que sans ça, on n'est pas accepté par la population. Et il y a un certain nombre, les gens qui viennent, ils trouvent déjà une structure qui est déjà en place, une structure qui est basée sur le système de classe d'âge, voilà. Un système de classe d'âge, ça aussi, ça on le trouve partout au Comore, mais les Maoris s'en sont appropriés pour dire que c'est une spécialité maoraise. C'est un système de classe d'âge qui rentre dans le cadre de ce que nous appelons le Hada, régi par le Hada, le grand mariage, le système du grand mariage. Donc c'est le grand mariage qui encadre tout. Ce qui fait que les classes d'âge s'encastrent dans ce système de manière à créer toutes les structures qu'on trouve en ce moment. Par exemple, ici en France, dans ce système-là, on trouve exactement la retraite, par exemple. Quand on se fait vieux, on n'a plus qu'à rester à la mosquée, aller prier à la mosquée, rentrer à la maison. Et tous ceux qui font le grand mariage, ils donnent de la viande, de l'argent et tout. Ils pourvoient tout à ce patriarche qui a déjà trop travaillé. Et puis, il y a en plus le fait que dans ce système, il n'y a pas d'hospice pour mettre des vieux. Il n'existe jamais d'adoption. L'adoption n'existe pas. Parce que quand l'enfant est né, l'enfant appartient au quartier, au village, à l'île et au pays. Donc ce qui fait que pour être concret, par exemple, j'ai un enfant, ben l'enfant ne m'appartient pas. Et le système familial n'est pas aussi réduit qu'il l'est en France. C'est pour ça aussi que la France, en instituant le nouveau code à Mayotte, ça, si elle ne prend pas en compte tout ce qui a été fait depuis, avant leur venue aux Comores, je ne sais pas comment les Mayottes vont s'en sortir. Là, par exemple, ils vont tout refaire sur le système patronymique, l'état civil. Ils vont refaire l'état civil sans tenir compte que du fait que le système qui est régi par la tradition orale fait que quand on est né, on porte un nom suivi du nom du père. Bon, il se trouve souvent que deux personnes soient des homonymes, c'est-à-dire ils aient le même nom et le même nom du père. On remonte au grand-père. Si vous trouvez des personnes qui on remonte, ce qui fait qu'il y a des arbres généalogiques qui se font automatiquement, donc les gens connaissent, peuvent remonter jusqu'à très loin. Donc c'est des systèmes auquel la France ne fait aucun cas dans le cadre de réforme de l'état civil. Bon, l'enfant qui est né au sein d'une famille, l'enfant n'appartient pas au père et à la mère. L'enfant appartient aussi bien à son instituteur. L'instituteur a le même droit que le père et la mère. Il appartient au grand-père, à la grand-mère. Il appartient, ce qui fait que même à ses beaux-parents, dans le cadre des polygamies, des familles polygames, ce qui fait que l'enfant, quand il trouve pas à manger chez lui, il peut se permettre d'aller frapper chez son oncle, ou chez sa belle-mère, ou chez son... C'est une cellule familiale très, très, très ouverte. Donc, tout ça, c'est pour montrer que ce que raconte Barouin et puis tous les gens qui essaient de concocter une législation à Mayotte, s'ils ne prennent pas en compte tous ces facteurs. Là, il y a tant d'exemples à citer. Là, je peux pas les citer tous. Par exemple, le système administratif qui a été complètement cassé par le système colonial. Parce que quand le chef de village n'est pas chef de village qui veut, ce ne sont pas des élections. Ils ne font pas des élections dans ces pays-là. Ça se fait selon un système pyramidal décidé par la notabilité et le système de classe d'âge. Tout ça, c'est très compliqué, très opaque. Oui, je cite juste un dernier exemple. Dernier exemple, c'est par exemple le système d'enseignement. Avant l'avènement du système colonial aux Comores, il n'y avait pas un seul illettré aux Comores, que ce soit Mayotte, Anjouan, Brélie ou la Grande Comore. Parce que, toujours par le même principe, il y a un système qui a été mis au point par les quartiers, les villages et puis le pays qui alphabétisait l'enfant dès qu'il avait atteint l'âge de 3 ans. Nous tous, jusqu'à ma génération, parce que jusqu'à ma génération, après l'avènement de l'enseignement européen, les Européens ont tout fait pour essayer d'éradiquer cet enseignement coranique qui, il est vrai, se limitait à la lecture et à l'écriture. C'est-à-dire, ils écrivaient en arabe, ils savaient écrire en arabe et ils savaient lire en arabe, mais ils ne comprenaient pas l'arabe. Donc, mais il n'en reste pas moins que c'est un système qui aurait pu être exploité par les nouveaux venus, les Français, quand ils sont venus. Ils ne l'ont pas fait, ils ont décidé quand ils sont venus, ils ont créé leur emploi du temps, leur système, et puis ils ont dit aux Comoriens, vous vous débrouillez avec votre enseignement. Donc ils n'ont pas pensé essayer de fusionner les deux pour qu'on puisse bénéficier des deux enseignements. Ce qui fait que nous, on a dû jongler. Pour moi, par exemple, quand on m'a mis à l'école coranique à 3 ans, il fallait qu'on accélère pour que je sache lire et écrire vers 7 ans, parce qu'à 5 ans, il fallait nous mettre à l'école européenne. Et encore, beaucoup de parents s'interdisent de mettre leurs enfants à l'école européenne tant qu'ils ne maîtrisent pas l'enseignement coranique. Donc c'est autant de choses qui font que, bon, je vais m'arrêter là.